VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
13h à Conakry, 14h à Yaoundé. Bienvenue à notre bulletin nouvelle. En RDC, au moins 7 militants de la société civile congolaise arrêtés ce vendredi à Kinshasa, alors qu'ils se préparaient à participer à une conférence interdite sur le retour à l'ordre constitutionnel dans le pays en 2017. La conférence était interdite, nous avons arrêté 7 personnes, on va les relâcher, a déclaré à l'AFP le colonel Pierre Rombo Mwanamputu, porte-parole de la police. Pour sa part, bienvenue Matumo, militant du mouvement congolais Lucha, lutte pour le changement, fait état de 9 militants mis aux arrêts. Et toujours en RDC, 2 militaires congolais et 6 miliciens sont morts dans les combats jeudi au nord Kivu dans l'est du pays. C'est ce qu'annoncent les FARDC, l'armée nationale congolaise, aujourd'hui. Selon le major Dike Kiaiko, porte-parole de l'armée dans la région, les Mai Mai ont tendu une embuscade jeudi soir entre deux positions des FARDC près de Niamilima, à 100 km au nord de Goma, chef-lieu de la province du nord Kivu. Le bilan, 2 FARDC et 6 Mai Mai tués, plus 8 miliciens capturés dans des combats qui ont continué jusqu'à ce vendredi matin, a précisé le major Kaiko. Et toujours en RDC, pas de festivité pour la célébration des 57 ans d'indépendance du pays aujourd'hui. Le président Joseph Kabila a annulé son discours de circonstance pour raison de santé. Et les autorités exhortent la population à plutôt commémorer la date du 30 juin dans la méditation. On écoute Basile Olongo, vice-ministre congolais de l'Intérieur et de la Sécurité.
Ce n'est pas la première fois qu'on arrive le 30 et que les Congolais réfléchissent sur leur sort. Je pense que ce sera un bon moment, une belle journée de méditation. Vous avez suivi que depuis un certain temps, il y a quelques mois où la récolonisation s'annonce, il est grand temps de s'arrêter pour réfléchir. Lorsqu'on vous considère plus comme un État souverain, vous devez vous arrêter de réfléchir. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour danser, il y a un temps pour défiler, il y a un temps pour réfléchir, pour s'interroger d'où nous venons, où est-ce que nous sommes, où nous allons.
Basile Olongo, vice-ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de la RDC. RCA, la situation humanitaire est alarmante à Bria, ville du centre du pays, vidée de ses habitants, où de violents combats entre milices ont fait une centaine de morts il y a une semaine. C'est ce qu'affirme l'ONG Médecins Sans Frontières. Les besoins sont énormes en termes de latrines ou encore d'accès à l'eau, alors que 40 000 des 47 000 habitants de la ville sont déplacés à l'intérieur de la localité ou dans ses environs, a déclaré Mumuza Mouindo, coordinateur de projet pour MSF sur place depuis janvier 2016, qui vient de rentrer de Biria. Au Cameroun, la hiérarchie militaire connaît de grands changements depuis hier. Le président Paul Biya a mis à la retraite 6 généraux et 11 nouvelles nominations ont été annoncées dans 3 grandes forces de l'armée. Le président camerounais a aussi désigné un nouveau général de brigade pour coordonner la lutte contre le terrorisme dans la région de l'extrême nord. Les détails avec notre correspondant au Cameroun, Emmanuel Jules Ntap.
Le général de brigade Nkav Valère, installé le 30 janvier dernier comme intérimaire, est rappelé à Yaoundé. Pour le remplacer, un général de brigade, Frédéric Ndjonkep. Un choix stratégique, selon le porte-parole de l'armée camerounaise, colonel Didier Badjek.
C'était un homme qui est brave. Il va dans le cœur même de la crise, contre Boko Haram. Je crois aussi qu'il a de la ressource sur le point polémologique.
C'est dans cette région interarmée que quelques militaires ont engagé, le 3 juin dernier, une mutinerie, vite étouffée, réclamant au passage primes et relèves au front. Du sang neuf a été aussi injecté dans le haut commandement, avec la promotion de 11 colonels au grade de général de brigade, portés aussitôt au poste stratégique militaire et de gendarmerie sur l'ensemble du territoire national. Explication avec le porte-parole de l'armée camerounaise, colonel Badjek.
Au niveau des grands commandements, ce qui reste quand même l'implantation de la souveraineté de l'État, eh bien on peut dire qu'on a mis des généraux là, ce qui correspond quand même au grade indiqué pour commander ce genre de formation.
De nouveaux responsables de la logistique militaire, de gendarmerie, du budget, des équipements et dans certains tribunaux militaires ont été également nommés dans ce qui paraît comme un grand ménage au sein de l'armée camerounaise. Emmanuel Zultap, Yaoundé, VOA, Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Côte d'Ivoire, la mission des Nations Unies dans le pays prend officiellement fin aujourd'hui. L'ONU s'y a été déployée en février 2004, 2 ans après le début de la crise politico-militaire ivoirienne. Dans un communiqué ce vendredi, Human Rights Watch, organisation de défense des droits humains basée à New York, affirme que le départ définitif des casques bleus après 13 ans de présence constitue l'occasion pour le gouvernement ivoirien de lutter contre l'impunité et traiter les causes profondes des tensions politiques. Human Rights Watch reconnaît que la Côte d'Ivoire a bénéficié de plus de 6 ans de paix et de sécurité relative après la crise post-électorale de 2010-2011, mais elle souligne aussi que l'insuffisance des progrès réalisés par le gouvernement ivoirien pour lutter contre la culture de l'impunité, réformer les forces de sécurité et renforcer les institutions de l'État de droit menacent les perspectives de paix et de développement à long terme du pays. Plus de détails sur le départ des casques bleus de Côte d'Ivoire avec Abdourahmane Dia.
La chef de l'ONUCI, Aïcha Toumine Daoudou, a fait ses adieux au président ivoirien Alassane Ouattara après avoir assisté à une cérémonie de descente du drapeau de l'ONU à son siège en présence du ministre ivoirien de l'Intérieur. Ahmed Bakayoko a remercié l'ONUCI pour avoir, dit-il, contribué au retour et au maintien de la paix. De son côté, Mme Mindaoudou a expliqué que le départ de l'ONUCI ne signifiait pas pour autant la fin de l'implication de l'ONU dans la consolidation de la paix. La Côte d'Ivoire a connu une décennie de crises politico-militaires marquée par la séparation du pays en deux de 2002 à 2011 après un coup d'État manqué contre le président Laurent Gbagbo. La crise post-électorale de 2010-2011, qui a fait plus de 3000 morts en 5 mois, a constitué l'épilogue de cette décennie sanglante. Mme Mindaoudou a indiqué dans une interview à Jeune Afrique que la réconciliation est un processus long dans tous les pays qui sortent de crise. Elle a appelé les autorités judiciaires à juger les auteurs de violations graves des droits de l'homme.
Actualité aux États-Unis maintenant, les mesures migratoires du président Donald Trump à l'égard de certains ressortissants de 6 pays musulmans sont maintenant entrées en vigueur. La Cour suprême américaine a décidé lundi que ces mesures peuvent être partiellement appliquées en attendant que ses juges statuent en octobre sur le fond de l'affaire. Pour un éclairage, Timothée Donogmaï a contacté à Silver Spring dans l'État du Maryland, Maître Joseph Fa, avocat spécialiste de l'immigration.
Par rapport à la recevabilité des dossiers au niveau de la Cour suprême, il faudrait que les juges de la Cour suprême acceptent. Ce n'est pas de droit, il faudrait qu'ils acceptent parce qu'on appelle le séjour, il faut accepter de statuer sur l'affaire. Et effectivement, ils ont accepté de statuer sur l'affaire. Et en acceptant de statuer sur l'affaire, il y a une partie du travel ban qui va entrer désormais en vigueur à partir de cette nuit. Et lorsque la Cour va reprendre session en octobre, ils vont statuer donc sur le reste de la constitutionnalité de ce travel ban par rapport à tout ce qui n'a pas été, tout ce qui a été décidé par les cours inférieurs.
Alors, vous l'avez dit, cette mesure entre en vigueur partiellement. Qu'est-ce qui va changer?
Ce qui fait que on a 6 pays du Moyen-Orient et les 6 pays arabes, la Libye, je pense la Libye, l'Iran, le Yémen, la Somalie, et je pense qu'il y a la Syrie également. Nous avons ces 6 pays-là qui seront désormais, pas qu'ils ne doivent pas avoir affaire aux États-Unis, ceux des membres de la famille, je parle de la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen, ceux qui ont des connexions aux États-Unis auront toujours la possibilité d'entrer aux États-Unis. Ce n'est pas qu'on va interdire à tous ceux-là qui viennent de ce pays de façon automatique d'entrer aux États-Unis, mais il va falloir qu'ils justifient qu'ils ont une connexion aux États-Unis. Si c'est pour la toute première fois que vous entendez parler des États-Unis et vous venez de l'un de ces pays, ce serait difficile pour vous pour avoir un visa durant la durée des 3 mois, parce que je pense que d'ici à octobre, c'est juste une question de quelques mois.
Alors, octobre est une importante échéance dans ce processus.
Oui, seulement en octobre, non seulement la mesure s'était faite pour quelques mois, ce sera expiré, mais également en octobre, la Cour suprême va statuer sur la constitutionnalité de cette décision. Alors, ça ne veut pas dire que parce que la mesure a été en vigueur, que c'est forcément constitutionnel, parce que lorsque la Cour suprême statue dessus, elle peut revenir par rapport à la décision pour dire effectivement c'était contre la Constitution. Ça veut dire que ce genre de, pour empêcher qu'on ait ce genre de reprise ou bien ce genre de loi pour le futur, il va falloir effectivement que la Cour suprême dise si ce genre d'action par le président de la République est constitutionnel.
Maître Joseph, avocat spécialiste de l'immigration à Silver Spring dans l'État du Maryland, ici aux États-Unis. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.